Que le nom du Seigneur soit béni. Prions vraiment pour que l'Esprit de Dieu soit libre dans l'Église et qu'il puisse dire tout ce qu'il a à nous dire. Nous allons faire une lecture dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 4. Dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 4, verset 1er, il nous est indiqué ce que Dieu veut. Il y a des choses que Dieu veut vraiment. Les voulez-vous aussi? 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 1er. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, regardez bien, comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus, de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Je le relis s'il vous plaît. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ces préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Amen. Dans l'Épître aux Hébreux, il nous est dit à peu près la même chose, d'une manière différente. Hébreux, chapitre 12, verset 12. Et nous lirons jusqu'au verset 17, car il nous est donné un exemple de quelqu'un qui a méprisé, profané, justement, tiens, le don que Dieu lui avait donné. Hébreux chapitre 12, verset 12. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. À ce qu'il n'y ait ni débauché, ni profane comme Ésaü, qui pour un mai vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il l'ait sollicité avec larmes, car il ne put amener son père à changer de sentiment. Amen. Verset 14, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette parole? C'est une parole de l'Écriture. Vous êtes toujours convaincu que la parole de Dieu est inspirée pour nous corriger, pour nous convaincre? Déjà, que la parole de Dieu puisse nous convaincre, nous instruire, nous corriger. C'est écrit, c'est Paul qui le dit à Timothée. La parole de Dieu, elle s'est inspirée pour nous convaincre. Un chrétien, c'est quoi un chrétien? C'est quelqu'un qui est rempli de conviction. Un chrétien qui n'est pas rempli de conviction, c'est un drôle de chrétien. La vie avec Dieu, c'est une vie de conviction. On n'est pas de telle dénomination ou de telle autre, ça ne veut rien dire. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est rempli de conviction. Ce que Dieu a dit, il le prend au sérieux. C'est beaucoup plus important que ce que lui, il pense. Voilà, on n'est pas dans la superficialité. Vous savez, la parole du serpent, Dieu a-t-il réellement dit? On en est là aujourd'hui. Dieu a-t-il réellement dit oui, d'accord, oui, mais enfin quand même. On en est là. Les gens n'ont aucune conviction. Et le diable s'en fait des gorges chaudes, laissez-moi vous le dire, parce qu'il voit que l'œuvre de Dieu ne se fera pas. Les chrétiens, ils sont remplis de conviction. Quand on lit une parole comme celle que nous venons de lire, nous devons prendre une certaine décision. Comment vous l'interprétez cette parole au fait? Si vous deviez faire un petit commentaire de quelques lignes sur ce texte que nous venons de lire, recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Qu'est-ce que vous diriez dessus sur ce texte, hein? Vous savez, l'ennemi fera tout pour que nous ne prenions pas au sérieux certaines vérités de la parole. Et si le Seigneur dit que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur, eh bien ça veut dire que personne ne verra le Seigneur. Personne. Est-ce que nous voulons que nos enfants voient le Seigneur? Notre sœur Claudine tout à l'heure priait pour tous les ados de l'Église. Est-ce que nous voulons que tous les ados voient le Seigneur? Est-ce que vraiment nous croyons que c'est possible, que si Dieu nous a donné des enfants, c'est pour qu'ils soient tous sauvés? Eh bien, voyez, mes frères et sœurs, si nous voulons que nos enfants, nos ados, nos jeunes, les vieux, les pasteurs, si nous voulons voir le Seigneur, il nous faut être sérieux en ce qui concerne la sanctification. C'est quelque chose de très important. Et la gloire de Dieu, ça se prépare. Des fois, on entend le Seigneur, les gens dire, « Seigneur, prépare les cœurs, prépare les cœurs. » Bon, on comprend ce que ça veut dire. Mais ce n'est pas à Dieu de préparer les cœurs. C'est à nous de nous préparer. Une sœur à Paris ce dimanche disait, « Seigneur, fais le ménage dans ma vie, fais le ménage. » On comprend ce qu'elle veut dire. Mais c'est pas Dieu qui va faire le ménage. C'est nous qui ferons le ménage. Et la gloire de Dieu, ça se prépare. Regardez avec moi, vous gardez le texte, mais dans Ésaïe 40, c'est important, mes frères et sœurs, parce que je perçois dans mon esprit que le Seigneur veut agir dans l'Église et que beaucoup parmi nous ne nous préparons pas. Nous ne prenons pas au sérieux ces choses. Dans Ésaïe 40, on le voit bien, on le voit très bien au verset 3 et à 5, on voit que Dieu crie. Pourquoi Dieu crierait-il? Eh bien parce qu'il n'arrive pas à se faire entendre. Quand la voix de Dieu crie, ça veut dire que Dieu n'arrive pas à nous atteindre. Vous avez déjà crié sur un de vos enfants parce qu'il ne vous écoutait pas pour le réveiller? Vous avez déjà crié sur un enfant? Oui. Arrête! On a déjà dit à des enfants, tu te tais maintenant. Hein? Et quand Dieu crie, ce n'est pas parce qu'il a envie de crier, c'est parce qu'en vérité, il ne peut plus nous parler. Et on ne l'entend plus. Et regardez ce que Dieu dit. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exhaussée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors, la gloire de l'Éternel sera révélée au même instant. Toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Vous avez vu, on part du désert. On part du désert et au verset 5, on voit la gloire de l'Éternel qui, au même instant qu'on aura préparé le terrain, eh bien, se manifestera. Voulons-nous voir la gloire de Dieu? Pourquoi sommes-nous venus ce soir dans ce lieu de culte? Voulons-nous préparer le cœur? Comme je vous dis, ce n'est pas Dieu qui fera le ménage, ce n'est pas Dieu qui préparera les cœurs, c'est nous qui déciderons de nous faire violence par rapport à telle chose, tel domaine. Voyez, les rois, lorsqu'ils circulaient dans l'Ancien Testament, à cette époque-là, eh bien, les rois ils circulaient dans des chars, mais je peux vous dire que d'une ville à l'autre, ou d'un pays à l'autre, la route où le roi devait passer eh bien, était aplanie, arrangée. Il ne fallait pas qu'il y ait des trous et des bosses pour que le roi ne soit pas trop chaoté. Eh bien, mais c'était normal pour un roi terrestre, mais pour notre Dieu, vous croyez que Dieu il va marcher n'importe où? Vous croyez que Dieu il va marcher dans une église où il y aurait le péché, où il y aurait la légèreté, où il y aurait manque de sanctification? Si pour les rois de la terre, il fallait préparer les routes, à combien plus forte raison pour notre Dieu il faut préparer le terrain. Nous sommes dans Ésaïe. Regardez un petit peu plus loin ce texte. C'est des textes qu'il faut méditer. Ce n'est pas des textes qu'on peut lire comme ça vite fait. Regardez. Moi, c'est un texte qui m'a beaucoup interpellé il y a à peu près 10 ans. Je lisais ce livre d'Ésaïe. Et c'est pourquoi ce texte m'a interpellé, je vais vous dire pourquoi. Par rapport au verset 10 du chapitre 63. Parce que c'est un texte qui nous montre qu'on peut attrister le Saint-Esprit. Ésaïe 63, verset 10, regardez. « Mais ils ont été rebelles, ils ont attristé son Esprit Saint. » Et regardez ce qu'il est devenu, le peuple de Dieu. Et il est devenu, comment c'est dans votre Bible? Il a combattu contre eux. Franchement, quand vous lisez ces textes avec le cœur ouvert, vous vous dites, mais comment c'est possible? Le peuple de Dieu est devenu l'ennemi de Dieu, parce qu'ils ont attristé le Saint-Esprit. Et vous savez que nous aussi, on peut attrister le Saint-Esprit, c'est vite fait. Et c'est ce texte-là qui m'a mené à méditer tout le contexte. Comme on a vu dans Ésaïe 40, qu'on peut partir de très très mal, du désert, mais ce n'est pas grave. Si on est sérieux, Dieu nous amènera à voir sa gloire. Et là, c'est le même principe. Alors, au verset 19, il y a un verset qui va très bien. « Nous sommes depuis longtemps comme un peuple que tu ne gouvernes pas. » Vous ne croyez pas que l'Église, elle est un peu comme ça ? Nous sommes depuis longtemps comme un peuple que tu ne gouvernes pas. Lisez la suite, je vous encourage peut-être demain matin à lire ce que le Seigneur nous reproche et ce que le Seigneur nous propose pour voir sa gloire. Alors, « Oh, si tu déchirais les cieux et si tu descendais. » Voilà, est-ce que quelqu'un aspire à ça ? Les montagnes s'ébranleraient devant toi, comme s'allume un feu de bois sec, comme s'évapore l'eau qui bouillonne, tes ennemis connaîtraient ton nom. Vous savez, les gens, des fois, ils s'inquiètent. Seigneur, les pécheurs, il faudrait que les pécheurs, que les journalistes soient de notre côté plutôt qu'ils se moquent de nous. On l'entend, ça, des fois. Écoutez-moi, si Dieu est avec nous, Dieu s'occupera de nos ennemis. Et ils connaîtront son nom. Le problème, nous, ce n'est pas nos ennemis, ce qu'ils pensent de l'Église ou ce qu'ils pensent de Dieu. Le problème, c'est de savoir ce que Dieu pense de l'Église et comment faire. Les nations trembleraient devant toi lorsque tu fis des prodiges que nous n'attendions pas. Tu descendis et les montagnes s'ébranlèrent devant toi. Jamais on n'a appris ni entendu dire et jamais l'œil n'a vu qu'un autre Dieu que toi fasse de telles choses pour ceux qui se confient en lui. Tu vas, regardez ce verset, tu vas au devant de celui qui pratique avec joie la justice, alléluia, de ceux qui marchent dans tes voies et se souviennent de toi. Mais tu as été irrité parce que nous avons péché et nous en souffrons longtemps jusqu'à ce que nous soyons sauvés. Le péché, on en souffre longtemps. Tant qu'il n'est pas réglé, on en souffre. Si vous vivez dans le péché, vous en souffrirez longtemps. Vous pouvez penser que le temps, ça va arranger les choses. Ce n'est pas vrai. Le péché, on en souffre jusqu'à ce qu'on le règle. C'est comme ça. Nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille et nos crimes nous emportent comme le vent. On s'arrête au verset 6. Il n'y a personne qui invoque ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi. Aussi nous as-tu caché ta face. Mais ce verset, vous pouvez l'inverser. Et si Dieu trouve quelqu'un qui va invoquer son nom, quelqu'un qui va se réveiller pour s'attacher à Dieu, Dieu ne nous cachera plus sa face. Le problème, il était là. Il y a un manque de préparation. On le voit tout le long du prophète Ésaïe. Dieu veut montrer sa gloire et Dieu ne veut pas se faire attendre à partir du moment où l'Église s'est préparée. L'Église, elle doit se préparer. Dans l'Apocalypse, il n'est pas dit qu'à l'enlèvement, l'Église s'est préparée. L'épouse s'est préparé, vous pouvez le lire, ne le cherchez pas, Apocalypse 19, 7, c'est important. Et nous venons de lire un verset qu'il faut absolument prendre au Seigneur, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Il faut bien le comprendre, c'est quelque chose qu'il faut absolument saisir, nous croyons que Dieu va manifester sa gloire à notre façon, non. Le Seigneur manifestera sa gloire si nous manifestons la sainteté. Et on voit dans Ézéchiel le nombre de fois où Dieu reproche au pasteur de profaner le sanctuaire. Qu'est-ce que ça veut dire profaner ? Profaner, ça veut dire deux choses, au moins deux. Ça veut dire mélanger. Lisez-le avec moi, tiens, puisqu'on n'est pas loin, Ésaïe, c'est un petit peu plus loin, Ésaïe, Jérémie, Lamentation de Jérémie, Ézéchiel, Daniel. Ézéchiel 22. Justement, un autre texte où Dieu dit qu'il cherche parmi le peuple qui ne va pas bien. Vous voyez, comme quoi Dieu ne dit pas, bon, le peuple ne va pas bien, je vais chercher parmi les anges. Non, le peuple ne va pas bien, il cherche quand même parmi le peuple qui ne va pas bien. Comme quoi Dieu est un Dieu d'amour et un Dieu de pardon. C'est bien quand même, non? Il ne dit pas, bon, vous ne faites plus l'affaire, je vous rejette. Non, on le voit au verset 30, vous voyez, je cherche parmi eux. Ça ne va pas, mais il cherche parmi eux. Et regardez au verset 26... Ces sacrificateurs violent ma loi, ils profanent mes sanctuaires. Ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane. Ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ils détournent les yeux de mes sabbats. Je suis profané au milieu d'eux. Profané, ça veut dire qu'on mélange les choses. On mélange ce qui est du religieux, ce qui est religieux, et ce qui est spirituel. C'est pas la peine d'aller chercher dans le monde. Là, c'est même pas la peine d'en parler. Mais on peut faire les choses d'une manière charnelle. La louange peut être charnelle. L'adoration peut être charnelle. On le voit quand Dieu dit, mais allez à Bethel et péchez. Dieu faisait tout ce qu'il fallait pour les ramener. Et chaque fois, Dieu disait, mais vous ne revenez pas à moi. Je vous ai envoyé la sécheresse. Mais vous n'êtes jamais revenu à moi. Et Dieu veut que l'on se prépare. C'est dans ce contexte où il dit, mais prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Profaner, c'est mélanger les choses. Dans l'église du Seigneur, il ne faut pas qu'il y ait de mélange. D'ailleurs, la purification, c'est ça. Dans le lieu des saints, tout était en or, d'or pur. L'or pur, ça veut dire qu'il n'y a pas de mélange. La pureté, de l'eau pure, c'est qu'il n'y a que de l'eau pure. Quand quelque chose est pur, c'est qu'il n'est pas mélangé à autre chose. Profaner, c'est aussi mépriser. Mépriser, c'est quelque chose auquel on n'attache pas de prix. Voilà. Ils ont méprisé les choses de Dieu. Voilà, c'était bien. Mais... c'est pas ça, je ne vais pas payer de prix pour les choses de Dieu. Je veux bien aller au culte, je veux bien, mais je ne suis pas prêt à m'y investir. Mépriser, c'est ça, on n'attache pas de prix. Profaner, c'est mélanger le saint avec le profane. Quand Dieu dit « c'est grave », nous on dit « ce n'est pas grave ». Quand Dieu dit « sans la sanctification, on ne verra pas le Seigneur », nous on dit « oui, d'accord, mais bon quand même ». Quand Dieu dit que quelque chose est grave, c'est grave. Quand Dieu dit que quelque chose est important, c'est important. Qu'est-ce que vous dites, vous, quand Dieu dit que c'est important? Est-ce que c'est important, la sanctification? Est-ce que vous dites ce soir, oui, je dis moi aussi que c'est important? Ou est-ce que vous faites comme ces vierges folles qui pensaient certainement que ce n'était pas si important que ça, d'avoir des réserves d'huile? Est-ce que c'était important pour elles, d'avoir de l'huile? Ben non, puisqu'elles n'en avaient pas. Mais c'est ce qui se passe aujourd'hui, avoir des réserves, mais pourquoi faire? Moi je vais à l'église tous les dimanches, ça c'est déjà bien. Je prends ma petite dose d'huile chaque dimanche, et je vivrai avec ça, peut-être que ça suffit. Est-ce que ça suffit? Il y a des chrétiens qui vont dire, ah moi la Bible, je la lis à l'église, quand je viens à l'église. Est-ce que ça suffit? Est-ce que c'est cette réserve d'huile dont Dieu parle? Moi je ne crois pas. Les vierges folles, elles ont dit, oh on a oublié de l'huile. Dieu n'a pas dit qu'elles avaient été oublieuses. Dieu il a dit qu'elles étaient folles. Et voyez, nous, on est capable de dire c'est pas important, c'est pas grave. Oh, quand même, on va pas devenir légaliste. Mais frères et sœurs, quand Dieu dit que de ne pas avoir d'huile, de l'huile, c'est de la folie, c'est de la folie. Quand Dieu dit que la sanctification, c'est la chose peut-être la plus importante dans l'Église, eh bien, il faut rechercher la sanctification, car sans la sanctification, je le répète, nul ne verra le Seigneur. Alors la sanctification, c'est quoi? C'est déjà une attitude de cœur. C'est pas que le fait d'avoir été sanctifié par le sang de Jésus. Il y a beaucoup de gens, ils prennent un verset à moitié ou un tiers. Le sang de Jésus me purifie de tout péché, donc je suis purifié. Mais si vous lisez la parole de Dieu, vous verrez qu'il est dit, si nous marchons en communion avec le Seigneur, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Et la sanctification, c'est déjà une attitude de cœur. Je prends à cœur ce que Dieu dit. Ça commence comme ça, la sanctification. C'est traiter les choses de Dieu avec la manière la plus sérieuse qui soit. Et on l'a lu dans Thessaloniciens, la sanctification fait partie de notre vocation. On l'a lu, Dieu vous a appelé à la sanctification. Vous savez qu'il est dit, appliquez-vous à affermir votre vocation et votre élection. Bon, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Donc, la vocation, ce sont les choses que nous sommes appelés à faire. Et quand il est écrit, c'est ce que Dieu veut, ça fait partie de notre vocation. Vous entendez, mes frères et sœurs? Il y a des fois, Seigneur, ce que tu veux, je veux le faire. Montre-moi ta volonté. Eh bien oui, mais la volonté de Dieu... Ce que Dieu veut, on l'a lu avec moi dans 2 Thessaloniciens, ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. D'ailleurs, l'enseignement de Jésus sur la prière commence avec cette dimension de sanctification. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ça veut dire que ton nom soit honoré, respecté. que dans l'Église, on traite le nom du Seigneur avec beaucoup de respect. C'est ça que ça veut dire. Dieu est un Dieu d'amour. Oui ? Que ton nom soit sanctifié. Donc, le nom représente tous les attributs de Dieu, le caractère de Dieu, l'œuvre de Dieu. Donc, si Dieu est un Dieu d'amour, je considère l'amour du Seigneur. Et je ne le remets pas en question. Ouais, si Dieu m'aimait, je n'en serais pas là. Je me demande si Dieu m'aime. Mais ça, vous ne sanctifiez pas le nom du Seigneur. Et on pourrait prendre tous les attributs et nous verrions, en fonction de notre attitude par rapport aux attributs de Dieu, si dans notre vie, le nom du Seigneur est sanctifié. Est-ce que Dieu est juste ? Est-ce que Dieu est vraiment juste ? Bon. Alors, je suis sérieux et je considère que Dieu est juste. C'est ça. Puisqu'il est le juste et le véritable, comment pourrais-je sanctifier le nom du Seigneur si je suis tout le temps en train de mettre en question sa justice? Mais oui, moi je ne comprends pas, Dieu aurait dû me faire justice, j'ai eu ce problème, Dieu n'est pas juste. Eh bien, vous ne sanctifiez pas le nom du Seigneur. Parce que le nom du Seigneur nous parle du juste juge, de la justice divine. C'est ça que Dieu veut. Et Dieu ne veut pas de mélange, c'est ça profaner. C'est qu'on est capable, vous voyez, de mélanger par exemple des choses de Dieu, oh je sais que Dieu est bon et ceci, mais après au niveau de la justice, on n'est pas au clair au niveau de la justice. Que ton nom soit sanctifié. S'il y a de la légèreté dans le royaume de Dieu, je peux vous dire que le nom du Seigneur n'est pas sanctifié. Et beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ces choses parce qu'ils n'ont pas pris le temps d'y réfléchir, parce qu'ils ne se sont peut-être pas agenouillés devant Dieu pour que Dieu les éclaire. Et c'est ce qui fait que dans les temps de la fin, eh bien, il est écrit que les croyants auront l'apparence de la piété. Et ils en renieront ce qui fait la force. Et ce qui fait la force de la piété, c'est la sanctification. Alors écoutez-moi, j'espère que vous êtes assez soucieux d'entendre la vérité ce soir dans votre cœur. Qu'est-ce qui fait la force de la piété ? C'est la sanctification. Voilà ce qui donne à la piété sa véritable force. Vous savez, mes frères et sœurs, je voudrais vous enseigner davantage sur ce qu'est vraiment la prière. Parce que je pense qu'on passe à côté de beaucoup de choses. Et si d'un côté, par exemple, on ne peut pas obliger Dieu à faire ce qu'il ne veut pas. Vous êtes d'accord avec moi ? Est-ce que quelqu'un, même s'il avait une grande foi, pourrait obliger Dieu à faire quelque chose que Dieu ne veut pas faire ? C'est pas possible. Mais par contre, nous pouvons l'empêcher de faire ce qu'il veut faire. Vous le comprenez ? Alors il y a des gens, c'est vrai, qui prient des choses que Dieu ne veut pas faire, il vaudrait mieux qu'ils arrêtent de prier. Mais une chose est certaine, c'est si le nom de Dieu n'est pas sanctifié dans nos vies, dans l'Église, dans l'Assemblée, une chose est certaine, nous empêcherons le Seigneur de faire ce qu'il veut faire, à savoir manifester sa gloire dans l'Église. C'est pour cela que le diable, lui, il essaie de faire du mélange que l'on profane. Alors c'est vrai que c'est des mots qu'on n'utilise pas beaucoup, mais enfin, le mélange, déjà, on le comprend bien, le mélange. Se mélanger avec les nations, ils l'ont fait ça dans le psaume 104, si je me trompe, ou 107. Il est dit, se mélangèrent avec les nations, ils pratiquèrent leurs œuvres. Ça, c'est l'aboutissement d'une vie de profanation. L'Église est l'instrument de Dieu sur la terre. Pour que la volonté de Dieu se fasse sur la terre, il faut que l'Église soit véritablement cet instrument de Dieu. Et l'Église devient l'instrument de Dieu lorsque les membres de cette fameuse Église sont sanctifiés. Les chrétiens doivent être unis ensemble dans un esprit de sainteté. Ça, c'est quelque chose de vital dans l'histoire de l'Église. C'est pour ça que le Notre Père commence avec cette dimension de louange. Notre Père, vous rendez compte, on peut appeler le Seigneur des Seigneurs, Notre Père. La prière doit toujours commencer dans la louange et dans l'adoration, mais dans cette prise de conscience que le nom du Seigneur doit être sanctifié. Nous devons nous accorder. Bien sûr que les chrétiens doivent s'accorder. C'est pour ça qu'il faut ne pas tolérer le péché dans l'Église. C'est pour ça que Dieu même demande de la discipline dans l'Église. Que s'il y a des gens qui vivent volontairement dans le péché, nous puissions les aider à prendre la victoire, ou alors s'ils ne veulent pas se retirer. C'est quand même écrit. Pourquoi Dieu dit, ôtez le méchant du milieu de vous ? Parce qu'on ne sait pas quoi faire, alors il faut s'occuper. Parce que ça empêche la bénédiction de Dieu. Sans la sanctification, nous ne verrons pas le Seigneur. Et un chrétien qui vit dans le péché, il devrait avoir cette honnêteté ou de se retirer. C'est biblique, ce que je vous dis, je ne mente rien. Ou alors de prendre la victoire, de dire, Seigneur, je ne veux pas être un obstacle à la gloire de Dieu dans ta maison. Je veux vraiment faire ce qu'il faut. Parce que si les gens qui vivent dans le péché, les chrétiens, je parle, parce que les pécheurs, vous avez le droit de venir, si vous découvrez l'évangile, vous avez le droit de venir, vous ne serez pas un obstacle à la bénédiction de Dieu. Vous pourrez obtenir cette bénédiction. Mais une fois qu'on est baptisé, on doit soupirer à une véritable sanctification afin que l'œuvre de Dieu puisse se faire. C'est important. L'outil de Dieu, quand Jésus était sur la terre, c'était lui l'outil, l'instrument. Et une fois que Jésus remontait au ciel, l'instrument, c'est devenu l'Église. Et l'Église doit veiller à cela, à une entière sanctification. Je ne parle pas de la sanctification dans le sens où on a été sanctifié par le corps, par le sang de Jésus. Je parle de la sanctification dans notre comportement. Je crois que Dieu veut bénir au-delà de ce qu'on peut penser. Je ne pense pas qu'on réalise tout ce que Dieu veut faire. Nous, on dit, Seigneur, fais ci, fais là, mais on est loin de s'imaginer comment Dieu voudrait nous bénir. Comment Dieu voudrait sauver des âmes. Oui, moi je crois que tous nos enfants doivent être sauvés. Que tous les adolescents peuvent se convertir. Vous le croyez? Que tous les fils prodigues peuvent revenir. Comment ça se fera? Avec une église sanctifiée. Les chrétiens doivent vivre dans la sanctification. Si la sanctification ne vous intéresse pas, ne vous imaginez pas qu'en venant à l'église, vous allez vous mettre Dieu de votre côté parce que vous venez à l'église. Ça, c'est l'apparence de la piété. Si la sanctification ne vous intéresse pas, vous pouvez faire obstacle justement à la bénédiction de Dieu. Quand le nom de Dieu sera sanctifié dans l'Église, le Seigneur agira. Alléluia. Il commence à agir. Moi, je me réjouis. Mais je ne pense pas que si d'un côté, il ne faut pas mépriser les faibles commencements, je ne pense pas qu'il faudrait en rester là. Nous voulons voir la gloire du Seigneur. Et nous sommes venus ce soir, Dieu savait qu'il y aurait ce soir. Voilà, la prière, c'est quelque chose de sérieux. Aux yeux de Dieu, en tous les cas, c'est quelque chose de sérieux. Et à vos yeux, est-ce que cela l'est? Puisque j'ai dit tout à l'heure qu'un chrétien sérieux, il prend au sérieux ce qui est sérieux pour Dieu. Vous croyez que c'est important la prière pour Dieu? Eh bien oui. Vous rappelez-vous qu'il n'a donné qu'un nom à sa maison. Ma maison sera appelée une maison de prière. Moi, ça m'a toujours étonné que le seul nom, déjà du temps d'Ésaïe, ça fait donc 2800 ans, quand Dieu a donné un nom à sa maison, il ne lui a donné qu'un seul nom, qu'un seul. Ma maison sera appelée une maison de prière. Et quand Jésus revient, enfin, quand Jésus est venu, on voit bien que Dieu n'a pas changé d'avis, il dira, ma maison sera appelée une maison de prière. Et Dieu n'a toujours pas changé d'avis. Si nous voulons véritablement que la maison de Dieu soit vraiment sa maison, elle doit être une maison de prière. Et nous devons nous réveiller en ce qui concerne la prière. La réunion de prière devrait être la réunion la plus fervente de la semaine. La réunion de prière devrait être la réunion la plus bouillante de la semaine. Je me souviens de ce témoignage dans un livre de Spurgeon. Il explique que un jour, il y a un pasteur, un ami à lui, qui a été dans une église un dimanche. Et ce dimanche-là, il y avait 3000 personnes. Il y avait 3000 personnes. Et le pasteur a dit, oula, vous avez une belle église et tout. Mais vous viendrez mardi. Et le mardi, à la réunion de prière, ils étaient 30. Et il a dit, tu as vu l'église que j'ai? Et ce pasteur expliquait que l'église, en fin de compte, la quantité de membres, c'est la quantité de gens qui prient. La force de l'église. Et mes frères et sœurs, que Dieu nous accorde la grâce de faire en sorte que son nom soit sanctifié. Et s'il y a des idoles dans nos cœurs, je pense, vous savez, en ce moment, la nuit, des fois, je me réveille même par rapport aux jeunes de l'Église. Et je sais qu'il me faut leur adresser certaines choses et je me prépare pour cela. Mais mes frères et sœurs, les jeunes en particulier, s'il y a des idoles dans votre cœur, s'il y a des choses qui prennent la place de Dieu, le nom de Dieu n'est pas sanctifié. C'est le premier de ses désirs. Que ton nom soit sanctifié dans le ciel, son nom, vous allez me dire dans le ciel c'est normal, ils sont tous d'accord, mais dans le ciel, son nom est sanctifié, son nom est exalté. Et sur la terre, nous l'Église, nous ne nous autoriserions pas à faire de la même sorte et nous avons, j'allais dire de la chance, oui, un privilège extraordinaire, que lorsque le nom de Dieu n'est pas sanctifié, Dieu n'envoie pas sa colère. La colère, Dieu l'enverra. Mais lorsque le nom de Dieu n'est pas sanctifié, il n'envoie pas la colère sur l'Église, ça c'est vrai. Mais il se retire. C'est pour ça qu'on a lu tout à l'heure, il nous cache sa face. Et lorsque le nom du Seigneur n'est pas sanctifié, on pourrait prendre d'autres textes, mais vous le savez que c'est vrai. Je ne l'ai pas inventé. Lorsque le nom du Seigneur n'est pas sanctifié, il se retire. C'est pour ça que dans l'église de Laodicée, il nous est dit qu'il est à la porte, de l'autre côté, du mauvais côté, et qu'il frappe. Et on ne peut pas s'autoriser à rester dans l'ignorance, à rester dans cette légèreté. Je vous en supplie, mes frères et sœurs, nous qui sommes sous le regard de Dieu, nous qui voulons une église qui corresponde à l'église primitive, nous devons absolument ne pas nous tromper avec des promesses et des versets bibliques. C'est vrai qu'on peut se tromper. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Mais vous croyez que Dieu va agir si on récite ce verset 55 fois de suite? Le Seigneur agira si bien sûr son nom est sanctifié. Et quand le nom du Seigneur est sanctifié, bien sûr que nous pouvons lui recommander notre sort. Bien sûr que nous pouvons lui faire confiance. Et là, il agira. Mais ça serait vraiment de la superstition, voire même de la magie, si nous pensions qu'en récitant un verset biblique, le Seigneur va le réaliser. Ça serait, oui, c'est de la superstition. Faisons attention, ne nous acharnons pas sur des promesses de l'Écriture. Les promesses de Dieu s'accomplissent lorsqu'on obéit à sa parole. Si son nom n'est pas sanctifié, mes frères et sœurs, Dieu n'agira pas. Et le nom du Seigneur, j'ai parlé de l'amour, j'ai parlé d'un Dieu juste, mais ce n'est pas qu'un titre non plus, parce que pour beaucoup de gens, le nom de Jésus, c'est son nom, comme vous vous appelez, Ina, hein, voilà, Émeric, hein, voilà, je veux dire, c'est pas que le nom. Le nom de Jésus représente tout ce qu'il est, absolument tout. Le nom du Seigneur nous parle de son caractère, mais de son œuvre aussi. Quand on parle de Jésus, on parle de toute son œuvre au calvaire. Oui ou non? Le nom de Jésus, est-ce que c'est pour vous toute l'œuvre au calvaire? Quand vous pensez à Jésus, vous pensez à quoi? Aujourd'hui, vous avez pensé à Jésus? À quoi avez-vous pensé de Jésus aujourd'hui, quand vous avez pensé à lui? Quand vous avez pensé à Jésus aujourd'hui? À la croix? Parce qu'on y pense dans la journée. On pense pas à Jésus, paf, le nom de Jésus, juste Jésus, son nom. Est-ce que ça représente quelque chose, le nom de Jésus? Le nom de Jésus nous parle continuellement de sa révélation, de sa perfection. Regardez ce verset dans Jean chapitre 17, pour mieux comprendre ce que je veux vous dire. Dans Jean chapitre 17, quand le Seigneur nous dit qu'il veut nous faire connaître son nom, au verset 26, regardez. Ce verset nous parle que le nom du Seigneur doit devenir une révélation. Il doit se révéler de plus en plus, le Seigneur. J'espère que vous le connaissez plus aujourd'hui qu'il y a 6 mois et qu'il y a plus qu'il y a 2 ans. Jean chapitre 17, verset 26, qu'est-ce qu'il dit? Je leur ai fait connaître ton nom. Vous êtes d'accord? Et je le leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Donc, connaître le nom du Seigneur nous parle de révélation de sa part. Le Seigneur doit se révéler de plus en plus dans notre cœur. Tiens, donc, je n'étais pas trop au courant sur la justice. Que Dieu est juste dans toutes ses voies et que ce qui se passe sur la terre n'a rien à voir avec de l'injustice divine. Oh Seigneur, je te demande pardon d'avoir remis en question ta justice. Oui, tu es un Dieu juste et tu sais ce que tu fais. Et pour comprendre la justice de Dieu, la seule chose à faire, en vérité, c'est de connaître la Bible du départ à la fin. Parce que quand vous connaissez, quand vous voyez la Bible du départ à la fin, vous croyez que Dieu est tout-puissant. Croyez-moi. Quand vous voyez comment les choses ont commencé, et quand vous voyez comment Dieu fera qu'elles se terminent, moi je vous dis que Dieu est juste et tout-puissant. Mais les gens, ils ne connaissent pas la Bible, ils ne la lisent même pas, et il s'autorise à faire des leçons à Dieu. Et après, Seigneur, que ton nom est beau. Mes frères et sœurs, le nom du Seigneur nous parle de révélation. Quand le nom du Seigneur est sanctifié, un chrétien, on peut dire qu'il vit dans l'adoration. Il vit dans l'adoration. Et l'adoration, ce n'est pas conjuguer « je t'adore » à la première personne du singulier. Adorer Dieu, c'est un respect profond. Vous comprenez bien que ce n'est pas parce qu'on conjugue un verbe que c'est gagné.
Adorons Dieu, allez, tous ensemble. Nous t'adorons. Ce soir, tout le monde a adoré Dieu à l'église. On a tous conjugué le verbe adorer à la première personne, on ne dit plus rien. Est-ce que c'est ça l'adoration? Bien sûr que non. L'adoration, c'est un respect profond. Et si nous voulons vraiment sanctifier le nom du Seigneur, nous devons d'abord l'adorer, d'abord comprendre les choses, après il nous accordera sa grâce et sa miséricorde, croyez-moi. Mais Dieu doit d'abord recevoir la louange. Mes frères et sœurs, nous allons terminer la réunion dans quelques instants. Il faut que nous terminions en le louant, en le remerciant pour ce qu'il est. Que ton nom soit sanctifié. Je voudrais terminer avec quelques lectures. Par exemple, dans 1 Timothée, si je ne m'abuse, que je ne me trompe pas, par rapport au nom du Seigneur, qu'est-ce qu'il est dit ? Timothée, alors, 2 Timothée, chapitre 2, verset 19. Regardez. Lisez-le avec moi. Néanmoins, le solide fondement posé par Dieu subsiste. Avec ses paroles qui lui servent de sceau, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, donc on est là-dedans, que ton nom soit sanctifié, qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'il s'éloigne de l'iniquité. Voilà ce que c'est sanctifier le nom du Seigneur, c'est s'éloigner de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois, de terre. Les uns sont des vases d'honneur, les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur, donc pas de mélange, la pureté, rappelez-vous, il n'y a pas de mélange. Voilà, c'est ça la pureté. On ne mélange rien. En s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre, fuit les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Si un vase doit être sanctifié, il ne peut l'être que si ceux qui prononcent le nom du Seigneur s'éloignent de l'iniquité. Et nous l'avons vu dans le contexte d'Hébreux, on n'y est pas loin, tout à l'heure, quand on a lu « rechercher la sanctification », vous avez vu les verbes que le Seigneur utilise, les verbes actifs, pour nous permettre de vivre ces choses. Vous rappelez, Hébreux 12, « fortifiez vos mains languissantes, suivez avec vos pieds des voies droites, recherchez », verset 15, « veillez ». Voilà, veiller, ce sont les conseils que Dieu nous donne. Bon, ce soir, c'est un peu ce qu'on est venu faire. On est venu veiller, on est venu apprendre, comprendre. Le seul conseil que Dieu donne aux vierges folles et sages, il est là, veillez et priez, dira le Seigneur. Voilà, le conseil, c'est quelque chose de sérieux. Je suis là, je n'écoute pas une prédication juste, tiens, c'est intéressant, c'est construit. Non, j'entends Dieu qui me parle, j'entends Dieu qui me secoue, qui me dit de faire attention, de ne pas faire comme Ésaü. Lui, Ésaü, lui, mais il a dit, on l'a lu, ni profane comme Ésaü. Mais ce n'était pas grave, le droit d'aînesse, oh le don que j'ai reçu, le talent que j'ai reçu, mais c'est pas grave, si moi je ne fais pas, ben Jérémie le fera. Si c'est pas moi, si c'est pas Isabelle qui fait l'école du dimanche, eh bien ça sera Géraldine. Et si c'est pas lui qui fait le ménage, eh bien ça sera... Vous avez vu comment ça s'est terminé pour Ésaü ? Il a méprisé le droit d'aînesse. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, et on veut le réveil, mes frères et sœurs. L'action du Saint-Esprit et les prières exaucées passent obligatoirement par ce souci que nous avons d'entendre le Seigneur nous parler. Quand Dieu dit que ton nom soit sanctifié, ce n'est pas négociable. Il faut que son nom soit sanctifié. Et je vous assure, mes frères et sœurs, que pour Ésaü, ça a été trop tard. Quand il a voulu obtenir la bénédiction, c'était trop tard. Et ce texte nous parle pour tous ceux qui, après leur mort, ça sera trop tard. Combien de chrétiens sont morts aujourd'hui et peut-être se sont retrouvés confrontés à une déception terrible parce qu'ils avaient Dieu pour sauveur, mais ils n'avaient pas Dieu pour Seigneur. Et Jésus dira à ceux qui commettent l'iniquité, qu'est-ce qu'il leur dira ? Retirez-vous de moi, je ne vous connais pas. Ça veut dire je n'ai pas eu de communion avec vous, je n'ai pas pu avoir de communion avec Dieu. Quand je vous parlais de sainteté, quand je vous parlais d'honorer ma sainteté, vous avez pris ça à la légère. Un chrétien, il est sérieux. Quand est-ce que le nom du Seigneur est sanctifié ? Eh bien, quand je veille. quand je veille sur mon âme, quand je prends au sérieux certaines choses, quand je ne mélange pas les choses de la terre avec les choses de Dieu, voilà, quand je lutte pour le salut des âmes, quand je lutte pour le salut des pécheurs, quand je lutte pour l'édification de l'Église, quand je lutte pour que les fils prodigues reviennent, voilà, je prends en considération les choses du Seigneur. Ah, moi, prier pour les autres, mais moi, j'ai pas le temps, je prie pour moi, c'est déjà pas mal. Mais ça, c'est pas biblique. Il n'y a pas écrit dans la Bible, priez chacun pour soi. La Bible est catégorique, prier les uns pour les autres. Comment quelqu'un y veille? Eh bien, quand il garde sa parole. Si vous lisez l'Apocalypse 3:3, si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Quelqu'un qui sanctifie le nom du Seigneur, il prend au sérieux le service dans l'Église. On ne dit pas, ben, on est 400 dans l'Église, donc ben, y a du monde. Il y a du monde. Mes frères et sœurs, quand vous passerez devant Dieu, Dieu ne va pas vous demander si vous étiez dans une église où il y avait tant de membres. Dieu il vous demandera si vous avez fait valoir le talent que vous aviez reçu. Et ne vous amusez pas à prendre ces choses à la légère, parce que Dieu ne les prendra pas à la légère. Et nous, comme on a le pouvoir de magouiller, de négocier, de réfléchir, de tordre les choses, quand on passera, vous pouvez magouiller, vous pouvez aller voir 10 pasteurs et vous en sortir. Et arriver à les berner. Mais vous croyez que quand vous allez passer devant Dieu, vous allez arriver à lui faire croire que le talent que vous aviez reçu, vous exclusivement, vous ne pouviez pas le faire valoir? Vous croyez que ça pourra se passer, ça? Ce n'est pas possible. Un chrétien qui sanctifie le nom du Seigneur ne peut pas faire autrement que de retrouver le chemin du service, ne peut pas faire autrement que de retrouver le chemin de l'intercession. Un chrétien qui sanctifie le nom du Seigneur ne peut pas faire autrement que d'être délivré de la paresse et de la négligence. Les vierges folles, Jésus l'a dit qu'elles étaient folles. C'était des pentecôtistes. Pourquoi c'était des pentecôtistes? Parce qu'elles attendaient l'enlèvement, elles attendaient le retour du maître. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'était des pentecôtistes, moi je le sais. Ouais. Alors, êtes-vous lassé des choses spirituelles? Ce sont des questions sérieuses. Je ne suis pas là pour blesser quelqu'un, mais il faut être capable de répondre. Est-ce que vous êtes lassé des choses spirituelles? Ne voulez-vous pas retrouver cette ferveur? Non pas en chantant, vous savez, on en a des cantiques. Hein. Prends ma vie, sers-toi de moi. Je ne rigole pas, hein. Me voici. Si vous voulez que ce cantique... Mais donnez-lui votre vie. Donnez-lui votre cœur. Et vous n'aurez plus besoin de chanter le cantique. Donnez-lui votre cœur. La Bible dit... La Bible ne dit pas chante, débouche les cantiques. La Bible dit, donne mon fils, donne-moi ton cœur. Et vous savez, mes frères et sœurs, nous sommes dans des temps difficiles. Je peux vous dire que l'ennemi, il est rusé. Plus que ce que nous pensons. Et il fera feu de tout bois pour nous maintenir dans le mélange. J'utilise ce mot parce qu'il est biblique, bien sûr, mais parce qu'il explique mieux la profanation, ce mot de mélange. Voilà ce que le diable y veut. Et ce que Dieu veut, c'est que puisque celui qui nous a appelés est saint, il faut que nous soyons saints dans toute notre conduite. On vient de voir ce texte, quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Regardez avec moi dans 2 Pierre. Regardez, c'est le même principe. Voulons-nous participer à la nature divine? Y a-t-il quelqu'un qui veut être participant à la nature divine? Je ne sais pas si ça vous en dit long quand même sur cette expression. Ça vous dit de participer à la nature divine? Regardez, 2 Pierre, chapitre 1, verset 4. Il nous est dit, bon, que c'est... Celle-ci, c'est-à-dire la promesse, sa présence, sa gloire, tout ça, nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Vous le croyez, ça? Que les plus grandes et les plus précieuses promesses nous sont assurées, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Comment? En fuyant. Fuyez! Vous savez ce que ça veut dire, fuyez? C'est le fuyez en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Voulons-nous... participer à la nature divine et connaître les grandes promesses, il faut fuir la corruption qui existe dans le monde. Et pour terminer, et cette fois c'est vrai, dans 2 Corinthiens, au chapitre, regardez avec moi, dans 2 Corinthiens au chapitre 7, c'est au chapitre 6, mais en vérité, mais c'est le verset premier du chapitre 7 qui nous intéresse. Regardez, c'est la même chose. C'est exactement la même chose, mais c'est dit différemment, parce que Dieu Dieu a cette capacité de nous dire les choses de manière différente. Vous le savez, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, pour que justement on y prenne plus facilement garde. C'est dans ce but, justement, s'il disait toujours pareil, mais il le dit de façon différente. 2 Corinthiens 7, verset 1er, « Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous, rappelez-vous, la purification, c'est aucun mélange. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. Pourquoi ? En achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » Vous voyez, ces textes nous parlent de sanctifier. Ou alors, c'est présenté de manière positive, achever la sanctification. C'est présenté de la manière négative, en fuyant la corruption qui existe dans le monde. Mais si vous lisez les versets qui précèdent, vous avez vu ? Quand Dieu dit au verset 16, à la fin du verset 16, Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est ça que Dieu veut. Ça, c'est la volonté de Dieu. Et pourquoi ? C'est pourquoi ? Sortez du milieu d'eux. Séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas ce qui est impur, et je vous accueillerai. On voit que Dieu nous demande de ne pas nous mélanger avec les choses de la terre. Que vous preniez 2 Timothée chapitre 2, 2 Pierre chapitre 1er, que vous preniez ce texte ou tous les autres, ça nous ramène à cette vérité, sans la sanctification, nous ne verrons pas le Seigneur. Mes frères et sœurs, je vous en supplie, je m'adresse à ceux qui veulent voir la gloire de Dieu, qu'il n'y ait pas parmi nous des Ésaü, des profanes. Vous allez me dire, mais moi, les plats de lentilles, parce que déjà on rit avec cette histoire du plat de lentilles. Mais justement, c'est rien un plat de lentilles. Et c'est avec des petites choses, souvent, qu'on s'est fait piéger. Avec des toutes petites bricoles, qu'on a perdu la bénédiction. C'était des petites choses dans lesquelles Dieu voulait que nous soyons sérieux. Des petites choses, mais nous, comme c'était petit, on ne l'a pas pris au sérieux. La prophétie que je n'ai pas donnée tout à l'heure, que j'ai dit en commençant, ceux qui ont reçu un talent et qui l'ont enfoui, c'est peut-être une toute petite chose. C'est peut-être votre voix que vous considérez comme minime, petite. Mais c'est une grâce d'avoir une voix. Et pourquoi Dieu nous aurait-il donné la parole ? Est-ce que vous auriez pu naître muet ? Est-ce que c'est écrit dans la Bible que Dieu dit « c'est moi qui rends sourd et aveugle, muet » ? Est-ce que Dieu l'a dit ? On aurait pu naître muet, sourd, aveugle. Dieu nous a donné une voix. C'est un talent que Dieu vous a donné. Et si vous méprisez la bouche que Dieu vous a donnée en oubliant de l'invoquer, eh bien vous méprisez le droit d'aînesse. Ce talent que Dieu vous a donné. Mes frères et sœurs, fermons les yeux quelques instants. Je voudrais vraiment que nous soyons soucieux, mais vraiment soucieux, de nous souvenir qu'un des premiers désirs de Dieu, c'est que son nom soit sanctifié. Entendez, mes frères et sœurs, les jeunes, vous à qui s'est adressée cette prophétie tout à l'heure, je vous en supplie, réconciliez-vous avec Dieu. Vous qui n'avez plus de zèle, vous qui n'avez plus de ferveur pour la prière, vous qui n'avez plus de ferveur pour le service, vous qui êtes tombés dans la tiédeur, cette prédication était pour vous. Venez ou revenez et jetez-vous dans ses bras. Retrouvez cette ferveur, qu'il n'y ait pas de mélange. Ils ont profané mon saint nom. Oui, mes frères et sœurs, le Seigneur ce soir nous dit que son nom soit sanctifié. Tout ce qu'il est, tout ce qu'il représente, toute la révélation liée à son nom, tout ce que nous avons compris doit passer par un comportement sanctifié. Oh, mes frères et sœurs, je vous assure, mes frères et sœurs, le Seigneur, il veut bénir ce pays. Il veut bénir tous nos enfants. Il veut bénir tous les fils prodigues. Et quand Dieu dit « je cherche parmi eux », oui, parmi nous, même si ça n'a pas été, même s'il y a eu beaucoup de déserts, Dieu cherche parmi nous quelqu'un qui sanctifiera le nom de Jésus. Alors prions quelques instants. Je voudrais prier vraiment, je ne vais pas faire d'appel. Je voudrais que dans votre cœur, d'une manière consciencieuse, puisque c'est sérieux pour Dieu, que ça le soit aussi pour vous. J'espère que vous m'avez compris. J'espère que je me suis bien fait comprendre, parce que c'est la parole de Dieu. Si Dieu dit que c'est sérieux, ne vous autorisez pas à dire que ce n'est pas très important. Notre Père, notre Dieu, tu as eu le bonheur de nous accorder, de te rencontrer. Tu as permis qu'un jour, nous entendions parler de toi. Nous, blasphémateurs, incrédules, moqueurs, nous qui méritions l'enfer et la condamnation, tes anges nous protégeaient malgré tout. Ce soir, dans ta maison, tu nous rappelles que tu veux que nous voyions ta gloire, que tu ne veux pas nous cacher ta face, mais au contraire, que tu veux qu'elle brille dans l'Église. Tu as le pouvoir de faire briller ta face dans l'Église, dans chacune de nos maisons. Oui, comme le psalmiste l'a dit, fais briller ta face et nous serons sauvés. Fais briller ta face dans ton sanctuaire, que tu ne nous la détournes pas ta face, mais que nous la cherchions ta face, Seigneur. Oui, Jésus, c'est notre prière ce soir. Que dans nos vies, dans nos foyers, dans nos maisons, ton nom soit sanctifié. Que rien d'impur, de souillé, de mondain ne vienne pénétrer dans nos âmes. Parce que nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Nous voulons te voir, te manifester. Oh Seigneur, dans cette génération, dans cette année 2012, nous voudrions te voir agir. Et nous te prions, Seigneur, que travers de ton esprit, tu amènes des convictions, des repentances, de véritables conversions, Seigneur. Tu vois ceux qui parmi ceux qui sont baptisés ne sont pas passés par une pleine conversion et qui se débattent toujours avec le péché. Seigneur, convainc-les de pécher tout à nouveau. Tu vois tous les chrétiens qui mélangent le religieux et le spirituel. Tu vois tous ces jeunes qui sont embarqués dans le monde. Délivre-les, Seigneur. Délivre-les. Parle à nos cœurs, Seigneur. Illumine les yeux de notre cœur pour que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à l'appel. Illumine nos yeux, Seigneur. Que ta volonté soit faite. Oui, Jésus, notre Père, que ton nom soit sanctifié. Merci, Seigneur Jésus. Amen.